Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Forum de l'aménagement durable. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct sur Radio Imo et Radio Territoria. Depuis ce matin, on découvre les grands enjeux ou les nouveaux enjeux de l'aménagement. On va parler recyclage foncier, économie circulaire dans un instant, un savoir-faire pour des projets plus sobres et plus durables. On est ravis d'accueillir Herr Dr. Frank Karg. Bonjour Monsieur Karg, président d'HPC International, avec une présentation dans quelques instants. On va laisser le mot d'introduction, si vous voulez bien, à François Riosec.
Oui, bien écoutez, nous avions parlé ce matin de notre forum comme un forum de solutions et concrètes. Et donc, M. Karg, aujourd'hui, va nous présenter son savoir-faire pour des projets plus sobres et plus durables, en matière de dépollution notamment, d'aménagement circulaire. Nous touchons là l'une des questions essentielles qui sont les questions économiques et sur la faisabilité ou pas, la faisabilité des projets. Donc, Monsieur Karg, vous avez la parole et nous vous écoutons attentivement.
Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, Frank Karg, je suis président HPC International. Et HPC International appartient à un groupe d'un capital franco-allemand, le groupe HPC AG, avec d'autres établissements dans le cadre de la société Joint Venture dans le monde. Et en France, nous avons 7 agences et en Europe, une soixantaine. Donc le sujet, c'est vraiment le recyclage foncier. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on veut moins en moins aménager des espaces verts ou agricoles et recycler plutôt des friches et des sites pollués. Et c'est de ça qu'il s'agit, ce que je vais présenter sur des exemples concrets. Notamment pour des traitements in situ, pour éviter d'excaver des centaines de milliers de tonnes de terre pour les transporter par camion vers des centres de traitement ou de décharge, ce qui a un très grand bilan, haut bilan de carbone qu'on peut éviter. Et c'est aussi beaucoup mieux pour la faisabilité technico-économique des projets.
C'est l'écran.
OK. Donc, en Europe, nous avons plusieurs sociétés et en France, nous avons deux. En 1991, j'ai créé HPC Envirotech en France et en 2016, HPC International, avec laquelle on intervient au niveau mondial, même si nous avons aussi un pied en Bretagne, parce que je suis venu d'une ancienne origine allemande, maintenant plutôt germano-breton. En Europe, on fait à peu près 76 millions de chiffres d'affaires dans le diagnostic de pollution, les évaluations de risques, des projets de plans de gestion, de réadaptation de dépollution pour préparer l'aménagement. Et il faut dire qu'une grande partie de nos activités sont sur des sites industriels parce que pour les aménagements, des friches et des sites pollués se trouvent surtout sur des sites ou anciens sites industriels à aménager pour éviter de grignoter sur les espaces verts pour faire un vrai recyclage des sites du foncier. Et donc, nous occupons de plusieurs segments, les énergies renouvelables, l'infrastructure, le planning, même le réaménagement des anciens sites miniers, il y a quand même pas mal aussi encore en France, et l'optimisation et restructuration industrielle qui délibère souvent du foncier, au moins pour les aménagements commerciaux ou logistiques. Et aussi le traitement des sites militaires et la production chimie militaire où il y a tous ces sujets particulièrement importants et compliqués. Concernant les énergies renouvelables, il faut dire que nous avons un grand changement là depuis quelques mois, il faut dire. Avant, les énergies renouvelables installées, c'était plutôt le photovoltaïque et les parcs éoliens. Et maintenant, le changement a commencé vers la production d'hydrogène. La production d'hydrogène à partir de l'électricité verte par électrolyse, mais aussi par la pyrogasification de déchets verts. Parce qu'on peut produire avec ces déchets sa propre énergie beaucoup plus pure, parce que si vous brûlez l'hydrogène, vous avez l'eau distillée. Et même en circulation, c'est beaucoup plus écologique et durable que l'électricité. Déjà, la durabilité de véhicules avec des batteries, ce n'est pas aussi long qu'avec un kilogramme d'hydrogène avec lequel on peut rouler 1500 km, par exemple. Et ça, c'est important aussi pour l'infrastructure du futur. Et évidemment, si on parle de friches, recyclage de friches et de sites pollués, il y a pas mal de choses à gérer, comme vous voyez. Des polluants qu'on voit très bien, que vous connaissez tous, des hydrocarbures, du fuel, des carburants, des huiles, etc. Mais il y a aussi d'autres, que je vais parler aussi un peu d'autres, qu'il faut gérer dans le projet environnemental, et notamment avec des nouvelles technologies et biotechnologies de traitement microbiologique in situ, par exemple, que vous voyez ici. Où on n'a plus besoin d'excaver ou pomper des eaux souterraines pour dépolluer. Un sujet qui est dans la presse très, très fortement aussi en France depuis le début d'année, vous avez certainement vu le PFAS, le polluant éternel, le plus que 9000 polluants qu'on a un peu partout, notamment aussi sur les friches et les sites pollués, qu'il faut gérer. Et là aussi, il y a des possibilités de solutions de traitement in situ qui sont beaucoup moins coûteux que des excavations et traitements très très chers dans les centres agrés. Il n'y a pas beaucoup qui sont agrés pour traiter ça. Et, excusez-moi, madame, vous êtes devant le capteur. Ah. Bon, il faut dire qu'il y a... C'est assez connu de traitements de polluants traditionnellement connus comme les hydrocarbures, les métaux lourds, etc. Mais il y a beaucoup plus où il faut s'en occuper aujourd'hui, et notamment des produits hétérocycliques, des amines aromatiques et des PFAS. Et donc, je vais montrer quelques exemples. On peut avoir sur une friche polluée plusieurs zones contaminées qui pose problème dans l'aménagement, le sol superficiel avec un contact direct, le sol plus profond, en cas d'excavation avec des frais d'élimination très, très coûteux qu'il faut gérer. Les eaux souterraines, sur un chantier, il faut peut-être faire un rabattement des eaux souterraines si on veut des parkings en sous-sol, etc. Et aussi le voisinage qui peut être touché avec la migration des eaux souterraines contaminées ou des gaz du sol, qui pose aussi après un problème en cas de contamination pour l'aménagement et l'air ambiant des futurs bâtiments. Les PFAS, par exemple, ils sont partout. Dans la production de textiles imperméabilisés, le traitement de surface des emballages, de papier, de carton, de meubles, dans les mousses anti-incendie, très très forte source de pollution de PFAS. Toutes sortes de peintures, encres, lacs, de modules électroniques, des huiles hydrauliques, donc il y a des milliers de sites contaminés par le PFAS. Donc il y a 33 familles de PFAS et un peu plus que 9000 substances polluantes dans l'environnement, et sont surtout connues pour être perturbateurs endocriniens. Ça déclenche des réactions dans le sein des femmes et dans la prostate de l'homme. Et quelques-unes de ces substances sont aussi cancérigènes. Donc là, un exemple d'un traitement in situ sans excavation d'une pollution d'hydrocarbures en sous-sol, où nous avons installé bioréacteur microbiologique de dépollution in situ en utilisant un bioréacteur naturellement déjà sur place, parce qu'il y a très souvent des bactéries qui existent pour traiter tout seul, pour dégrader des polluants. Mais quelquefois, ce n'est pas assez optimisé, trop lente, pas complète. Et donc, avec une bonne étude de faisabilité technico-économique, on peut installer un réacteur microbiologique de traitement in situ, optimisé et dynamisé. Et ça marche après, tout seul, quand on a installé de bons nutriments et de bons consortiums de bactéries qu'on choisit sur le site avec de biotechnologies type PCA, pas pour identifier des coronavirus, mais pour identifier la génétique des bactéries qui nous intéressent pour produire des enzymes qui cassent les polluants. Je crois qu'il faut changer la batterie. Ah, voilà. Un autre exemple où on peut mettre en place, par exemple pour un traitement des eaux souterraines, des oxyactivateurs, on prend des puits qui existent, par exemple même des piézomètres, où on peut installer ces oxyactivateurs pour traiter avec de l'oxygène et d'autres nutriments et accepteurs d'électrons qui sont la nourriture pour des bactéries, pour que ça se passe sans pompage des eaux souterraines, qui coûtera très cher. Et ça, souvent, ça apporte un coût facteur 30 à 40 fois moins cher. 3 minutes. Donc là, l'exemple pour des PFAS. Les PFAS, malheureusement, on ne peut pas les traiter par microbiologie parce que ça sert à pire. Il y a deux types, deux grandes familles, des PFAS polyfluorés et perfluorés. Il y a une biotransformation des PFAS polyfluorés vers les perfluorés qui restent stables, qui sont plus toxiques. Donc, on a d'autres traitements in situ pour ça. Et je vais montrer si ça fonctionne ici. Voilà, par exemple, par une immobilisation in situ, par exemple, avec des résines d'adsorption ou du charbon actif colloïdal, ou avec un lavage in situ en circulaire, où on peut apporter des polluants du sous-sol vers l'extérieur pour être traités. Et ça sont des solutions qui sont beaucoup moins chères que des pratiques traditionnelles de dépollution où il faut taper vraiment dans le terrain, ce qu'on n'a pas besoin comme ça. Et ça, c'est vraiment bas carbone, bas prix, beaucoup plus durable, et ça rend le projet d'aménagement sur des friches et des sites pollués beaucoup plus faisable. Merci pour votre intérêt. Il y a peut-être des questions maintenant.
Merci, Monsieur Carr. Effectivement, on voit une présentation très dense, avec beaucoup de formules que tout le monde aura bien sûr compris et retenues. Plus sérieusement, qui fait appel à vous aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les communes, les collectivités locales ? Qui fait appel à HPC International ?
Et j'avais montré un peu la clientèle. Donc, il y a beaucoup d'industriels, beaucoup d'aménageurs. Et nous avons de plus en plus des aménageurs qui s'intéressent à l'aménagement de friches, de brownfields et de sites pollués. Et parce qu'il est clair, pour un aménageur, ça comporte un risque juridique, un risque financier. Et notre objectif est d'accompagner et d'assurer, de minimiser un maximum de risques financiers et juridiques pour garantir, avec des vraies garanties, des budgets, donc la sécurité budgétaire.
Très bien, ça veut dire que sur un site, vous êtes capable de faire un audit, de réaliser un audit et de dire précisément combien va coûter la dépollution.
Une évaluation de risque et une étude de faisabilité technico-économique, et par la suite, on peut donner la garantie pour la sécurité juridique et budgétaire.
Ah, ce dont on a besoin pour les aménageurs. François Ressec.
Votre fonctionnement où vous intervenez avec une analyse puis un traitement in situ est extrêmement intéressant puisqu'on a tous pratiqué, nous aménageurs, des excavations, comme vous dites, et des transports de terre. On sait bien que ça ne sert pas à grand-chose puisqu'on ne fait que déplacer le problème. Hein. Mais vous amenez là une vision et un mode de travail extrêmement remarquable. Et donc j'ai bien entendu que vous êtes 30 fois moins cher, c'est ça ?
Oui.
Jusqu'à 30 fois moins cher. Donc on est là devant vraiment une solution de faisabilité pour nous. Bravo, merci. Puis donc on va continuer un partenariat, enfin j'espère, pour faire connaître ces bonnes pratiques. Surtout nos opérateurs.
D'autant qu'on l'a compris, hein, l'utilisation de la microbiologie permet de dépolluer très efficacement. On a souvent des enzymes ou des bactéries qui sont là pour dépolluer.
Pas pour tous les polluants, mais pour une très grande partie des polluants. Et on est arrivé à un stade aujourd'hui que nous avons des accords avec deux grandes entreprises d'assurance américaines qu'on peut obtenir pour des sites de Liability Select. Ce sont des couvertures d'assurance des sites contre tout autre risque de pollution à partir d'une date fixe de diagnostic ou de dépollution que nous avons réalisée. Et dans ce cas-là, on pourrait même vendre le foncier ou l'immobilier avec l'assurance du site contre toute autre pollution non reconnu encore.
Est-ce que vous prenez en compte aussi les métaux lourds ?
Oui.
Parce que oui.
Des métaux lourds, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut les stabiliser in situ pour qu'ils soient plus biodisponibles, plus lixiviables, ne vont plus dans les eaux souterraines. Ou il faut vraiment les séparer. Mais aujourd'hui, il existe aussi dans l'aménagement des sites des solutions sur le site. Avec des métaux stabilisés. Il faut dire que le plus de problèmes aujourd'hui pour les terres excavées et les classements non inertes, non ISDI, et c'est souvent à cause des métaux, et même des métaux et métalloïdes qui existent seulement naturellement avec un bruit de fond géochimique naturel. Et donc là, l'administration et la réglementation bloque encore de bonnes solutions parce que quelquefois, des terres excavées sont classées non inertes tout simplement à cause d'une présence de certains métaux ou métalloïdes comme l'antimoine, par exemple, présents dans une façon normale, géochimique, naturelle.
Très bien. En tout cas, voilà des pistes de solutions.
Merci.
On peut applaudir Franck Carr, président d'HPC International. Voilà pour cette matinée au Forum de l'aménagement. On reprend à partir de 14h. Ce sera avec Jean-Baptiste Butlen, le sous-directeur de l'aménagement durable au ministère de la Cohésion des Territoires. On vous souhaite un très bon déjeuner et à tout à l'heure.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.